soir-là, Hanley Bartram était l'invité des veufs noirs qui se réunissaient chaque mois dans leur repère tranquille, jurant la mort de toute femme qui viendrait les déranger. C'est en tout cas ce qu'ils faisaient cette nuit-là, chaque mois. Le nombre des participants était variable. Cette fois-ci, ils étaient 5. Geoffrey était l'hôte de la soirée. Il était grand, portait une moustache soigneusement taillée et une petite barbe plus blanche que brune, mais ses cheveux n'avaient rien perdu de leur noirceur. En tant qu'hôte, il se devait de porter le toast rituel qui marquait le commencement du dîner lui-même. D'une voix forte et avec entrain, il dit « En hommage au vieux roi Cole, que sa pipe ne s'éteigne jamais, que sa coupe soit toujours pleine, que ses violonistes jouissent toujours d'une bonne santé. Puissions-nous être aussi joyeux que lui pendant toute notre vie ?» Ils s'écrièrent tous les 6 « Amen !» portèrent leur verre à leurs lèvres et s'assirent. Avalon porta son verre à côté de son assiette. C'était son deuxième, et il en était maintenant exactement à la moitié. Il allait rester là pendant tout le reste du dîner sans être touché une seule fois. C'était un conseiller en brevet, et il reportait dans sa vie sociale toute la minutie de son travail. Un verre et demi était précisément ce qu'il se permettait de telles occasions. Thomas Trumbull surgit en haut des escaliers à la dernière minute, en s'écriant comme d'habitude
« Henri, un scotch à l'eau de seltz pour un mourant !»
Henri, qui était déjà leur serviteur depuis plusieurs années, et pas un seul veuf noir n'avait jamais entendu son nom de famille, avait déjà préparé le scotch. Il avait 60 ans environ, mais son visage était lisse et posé. Sa voix semblait s'éloigner à des lieues de là tandis qu'il parlait. « Voilà, monsieur Trumbull. » Trumbull remarqua tout de suite Bartram et dit Avalon en aparté. « Votre invité ?» Il a demandé à venir, dit Avalon d'une voix aussi basse qu'il pouvait. « Un gentil garçon. Vous l'aimerez. » La variété du dîner fut à l'image de tout ce que faisaient les veufs noirs. Emmanuel Rubin, qui portait l'autre barbe, une petite barbe rabougrie sous une bouche aux dents largement espacées, abandonnant sa réserve d'écrivain, racontait en détail l'histoire qu'il venait de terminer. James Drake, qui avait un visage rectangulaire et portait non pas une barbe, mais une moustache, l'interrompait pour raconter ce dont il se souvenait d'autres histoires. Drake était un chimiste organicien, mais avait une connaissance encyclopédique de la fiction. Trumbull, en tant qu'expert en code secret, se considérait comme un des membres des conseils internes du gouvernement et estimait que les déclarations politiques de Mario Gonzalo lui faisaient outrage.
« Mais non d'un chien » hurla-t-il, et il n'était pas d'humeur à être très injurieux ce soir. « Pourquoi ne vous contentez-vous pas de vos collages et de vos sacs en toile d'emballage ridicules et ne laissez-vous pas les problèmes du monde à ceux qui sont plus capables que vous ?»
Trumbull ne s'était pas remis l'exposition qui avait été consacrée entièrement à Gonzalo au début de cette année, et Gonzalo, comprenant cela, se mit à rire de bonne grâce en disant
« Hé hé, montrez-moi ceux qui sont plus capables que moi, citez-moi un !»
Bartram, petit héron, aux cheveux formant de minuscules boucles, s'en tenait fermement à son rôle d'invité. Il écoutait chacun, souriait à chacun et parlait peu. Le moment vint finalement où Henri versa le café et plaça les desserts devant chaque invité avec une adresse étudiée. C'était à ce moment précis que commençait la cuisine traditionnelle de l'invité. Presque par tradition, le premier interrogateur était Thomas Trumbull. Son visage basané aux rides figées dans une expression de mécontentement perpétuel exprimait la colère tandis qu'il posait son invariable première question.
« Monsieur Bartram, comment justifiez-vous votre existence ? »
Bartram sourit. Il fit une réponse précise disant « Je n'ai jamais essayé. Lorsque je leur donne satisfaction, mes clients trouvent que mon existence est justifiée. »
« Vos clients ?»
dit Rubin.
« Que faites-vous, monsieur ?»«
Je suis détective privé. »«
Bien !» dit James Drake. « Je ne pense pas que nous en ayons jamais eu un. »«
Manny, quand vous écrirez vos histoires d'enquête privée, vous pourrez décrire les procédures telles qu'elles sont réellement pour changer. »«
Pas grâce à moi, » s'empressa de dire Bartram.
Trumbull se renfrogna.
« Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, messieurs, en tant que cuisinier désigné, laissez-moi faire. »
« Monsieur Bartram, vous parlez des occasions auxquelles vous donnez satisfaction. Donnez-vous toujours satisfaction ?»«
Il arrive que ce soit discutable, » dit Bartram.
« En fait, je voulais vous parler ce soir d'une affaire pour laquelle c'était particulièrement discutable. Il se pourrait même qu'à cet égard, l'un d'entre vous puisse se montrer utile. C'est pour cette raison que j'ai demandé à mon excellent ami, Jeff Avalon, de m'inviter à une réunion lorsque j'ai appris les caractéristiques de votre organisation. Il a accepté et j'en suis très heureux. »
Êtes-vous prêt maintenant à ce que nous essayions de voir si vous avez ou non donné satisfaction, suivant le cas ?
Oui, avec votre permission. Trumbull regardait les autres pour voir s'il y avait une opposition quelconque. Gonzalo, les yeux saillants fixés sur Bartram, dit
« Pouvons-nous vous interrompre ?»
Rapidement, avec une économie de traits remarquable, il dessinait une caricature de Bartram au dos d'un menu. Elle rejoindrait les autres, autant de souvenirs de leurs invités, qui formaient une frise sur les murs tel un vaillant bataillon. « S'il y a une raison, » dit Bartram. Il s'arrêta pour boire une petite gorgée de café et dit « L'histoire commence avec Anderson, auquel je ne me référerai que de cette façon. C'était un inquisiteur. »«
Un inquisiteur ?»
demanda Gonzalo en fronçant les sourcils. «
un acquisiteur. Il acquirait des choses. Il les gagnait, il les achetait, il les ramassait, il les collectionnait. Pour lui, le monde n'allait que dans une direction, vers lui, jamais dans le sens inverse. Il avait une maison dans laquelle ce flot d'objets de valeur variable venait se reposer et n'en repartait jamais plus. Avec les années, il grossissait de plus en plus et devenait d'une hétérogénéité de plus en plus extraordinaire. Il avait aussi un associé que j'appellerais Jackson. Trumbull l'interrompit, fronçant les sourcils, non pas parce qu'il y avait de quoi froncer les sourcils, mais parce qu'il les fronçait toujours les sourcils.
« Est-ce une histoire vraie ? » dit-il.
« Je ne raconte que des histoires vraies, » répondit lentement et avec précision Bartram. « Je n'ai pas assez d'imagination pour mentir. »«
Est-ce confidentiel ?»«
Je raconterai l'histoire de telle sorte qu'il sera difficile de le reconnaître. »« Mais si elle était reconnue, alors elle serait confidentielle. »
« Je comprends le conditionnel, » dit Trumbull, « mais je désire vous certifier que tout ce qui est dit entre les murs de cette pièce n'est jamais répété ou évoqué hors de ces murs. » Henry comprend cela lui aussi.
Henry, qui remplissait de nouveau deux des tasses à café, sourit légèrement et baissa la tête en signe d'approbation. Bartram sourit aussi et continua. Jackson avait aussi une faiblesse. Il était honnête, inévitablement et profondément honnête. Ce caractère imprégnait son âme comme si, depuis qu'il était très jeune, il n'avait cessé de baigner dans l'intégrité. Pour un homme tel qu'Anderson, il était extrêmement utile d'avoir l'honnête Jackson comme associé, car leur activité, que je ne prendrai pas soin de décrire en détail, nécessitait de nombreux contacts avec le public. Handicapé par son acquisivité, Anderson ne pouvait se charger de ses contacts. À chaque objet acquis, c'était une nouvelle ride de sournoiserie qui se creusait sur son visage, si bien qu'il ressemblait à une toile d'araignée dont la simple vue effrayait toutes les mouches. C'était Jackson, le pur, l'honnête, qui représentait la façade, l'homme vers lequel toutes les veuves se pressaient avec leurs deniers et les orphelins avec leurs pauvres sous. D'autre part, Jackson ne pouvait pas, lui non plus, se passer d'Anderson car malgré toute son honnêteté, et peut-être à cause d'elle, il ne savait pas s'y prendre pour multiplier un dollar par deux. Abandonné à lui-même, il aurait perdu, sans avoir eu la moindre intention, tout ce qu'on lui aurait confié jusqu'au dernier centime et aurait dû choisir une curieuse forme de restitution, sa propre mort. Cependant, les mains d'Anderson étaient avec l'argent ce que l'engrais est aux roses. Lui et Jackson formaient une association toujours victorieuse. Pourtant, aucun paradis n'est éternel. Un trait de caractère, fortement marqué, abandonné à lui-même, s'approfondit, s'amplifie et va jusqu'à l'extrême. L'honnêteté de Jackson prenait des proportions tellement colossales qu'il arrivait à Anderson, malgré toute son habileté, de devoir faire marche arrière et de se résoudre à perdre de l'argent. Parallèlement, l'acquisitivité d'Anderson atteignait des profondeurs tellement monstrueuses que Jackson, malgré toute sa moralité, se trouvait occasionnellement entraîné à accomplir des actions discutables. Naturellement, comme Anderson n'aimait pas perdre d'argent et comme Jackson détestait perdre sa réputation, une certaine froideur grandit entre les deux hommes. Dans une telle situation, il est évident que l'avantage était du côté d'Anderson, qui agissait sans se fixer de limites raisonnables tandis que Jackson se sentait lié par un code moral. Sournoisement, Anderson travailla et manœuvra jusqu'à ce que finalement, le pauvre et honnête Jackson se vit obligé de vendre sa part de l'affaire dans des conditions les plus désavantageuses. On pourrait dire que l'acquisitivité d'Anderson en était à son plus haut point. Il devint propriétaire de l'affaire. Il avait maintenant l'intention de se retirer, d'abandonner le travail journalier à des employés pour s'occuper uniquement des opérations qui consistaient à empocher les bénéfices. Jackson, pour sa part, n'avait plus guère que son honnêteté, et bien que l'honnêteté soit une admirable qualité, elle a bien peu de valeur effective dans une affaire de prêteur sur gage. C'est à ce moment-là, messieurs, que j'entrais en scène. Ah, Henry, merci. On passa les verres de brandy.
À l'origine, vous ne connaissiez pas ces gens ?
Demanda Rubin en clignant ses yeux perçants. Non, dit Bartram, qui humait délicatement le brandy et le frôlait de sa lèvre supérieure. Mais je pense que l'un d'entre vous les connaissait. C'était il y a quelques années. La première fois que je vis Anderson, il entra dans mon bureau dans un état de violente surexcitation.
« Je veux que vous trouviez ce que j'ai perdu !» me dit-il.
Au cours de ma carrière, je me suis occupé de beaucoup d'affaires de vol. Aussi, naturellement, lui demandai-je. « Qu'avez-vous perdu ?»
Et il me répondit. « Mais bon sang, c'est justement ce que je vous demande de trouver !»
J'appris l'histoire d'une manière plutôt décousue. Anderson et Jackson s'étaient disputés avec une intensité surprenante. Jackson était hors de lui, comme seul un honnête homme peut l'être lorsqu'il réalise que son intégrité n'oppose aucune barrière à la connivence des autres. Il jura de se venger, mais n'y prêtant pas attention, Anderson haussa les épaules en riant.
« Prenez garde à la colère d'un homme patient !»
rappela Avalon avec ce mélange de précision et de recherche, dont il accompagnait même les moins sinistres de ses déclarations.
« C'est ce que j'ai entendu dire, » dit Bartram, « mais je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter la maxime. » Ni Anderson apparemment, parce qu'il n'avait pas peur de Jackson. Comme il l'a expliqué,
Jackson était si intrinsèquement honnête et si maladivement soumis à la loi qu'il était impossible qu'il se laisse aller à mal agir. Ou c'est tout du moins ce que pensait Anderson. Il ne lui venait même pas à l'idée de demander à Jackson de lui rendre la clé du bureau. Ce qui était d'autant plus curieux que le bureau était situé dans la maison d'Anderson, au milieu de tous ses bibelots. Anderson se rappela cette omission quelques jours plus tard quand, de retour d'un rendez-vous auquel il s'était rendu en début de soirée, il trouva Jackson dans sa maison. Jackson transportait sa vieille mallette qu'il fermait précisément au moment où Anderson entrait. Il la fermait avec hâte et effroi, sembla-t-il à Anderson. Anderson fronça les sourcils et dit « Que faites-vous ici ?»«
Je rapporte des papiers qui étaient en ma possession et qui dorénavant vous appartiennent, » dit Jackson. « Et je rapporte la clé du bureau. » Ce disant, il tendit la clé, montra les papiers sur le bureau et poussa la serrure à combinaison de sa mallette. Anderson pouvait jurer que ses doigts tremblaient. Des yeux, Jackson fit le tour de la pièce avec aux lèvres ce qui sembla être à Anderson un sourire bizarre, presque de secrète satisfaction, et il dit « Maintenant, je vais partir. » C'est ce qu'il fit. Ce n'est qu'après avoir entendu le moteur de la voiture de Jackson se mettre en marche, puis le bruit s'éloigner dans le lointain, qu'Anderson put sortir de l'espèce de stupeur qui l'avait paralysé. Il savait qu'il avait été volé, et il vint me voir le jour suivant.
Drake fit la moue, fit tourner entre ses doigts son verre de brandy à moitié plein et dit « Pourquoi pas la police ?»«
Il y avait un problème, » dit Bartram. Anderson ne savait pas ce qui avait été pris. Quand la certitude du vol se fit jour en lui, il se précipita naturellement vers le coffre-fort. Tout y était. Il fouilla son bureau. Apparemment, rien ne manquait. Il alla de pièce en pièce. Autant qu'il put en juger, tout était intact.
« Il n'en était pas certain ?» demanda Gonzalo.
« Il pouvait pas l'être. » La maison regorgeait d'une quantité extraordinaire d'objets les plus variés et il ne se souvenait pas de tout ce qu'il avait. Il me dit par exemple qu'à une époque, il avait collectionné les montres anciennes. Il les avait mises dans un petit tiroir de son bureau. Il en avait 6. Elles étaient là toutes les 6, mais il était hanté par le vague souvenir d'en avoir eu 7. Il ne se souvenait pas exactement. En fait, c'était même pire. L'une de ces 6 montres lui paraissait étrange. Peut-être n'en avait-il toujours eu que 6, mais dont l'une d'entre elles aurait été remplacée par une autre de moindre valeur. Une bonne douzaine de fois, dans chaque coin, pour chaque objet, c'était à peu près le même dilemme qui se répétait. Alors il vint me voir.
« Attendez un instant !» interrompit Trumbull, posant brutalement la main sur la table.
« Pourquoi était-il si sûr que Jackson lui avait pris quelque chose ?»«
Ah !» dit Bartram. « Voilà justement ce qu'il y a de fascinant dans l'histoire. C'est lorsque Jackson ferma sa mallette et regarda la pièce avec aux lèvres un sourire dissimulé que les soupçons d'Anderson s'éveillèrent. Puis, en fermant la porte derrière lui, Jackson se mit à rire. « Ce n'était pas un rire ordinaire, mais je vais laisser Anderson exprimer cela en ses propres termes, que je répéterai aussi exactement que ma mémoire me le permet. »«
Bartram, dit-il, j'ai entendu ce rire une quantité innombrable de fois au cours de ma vie. J'ai ri moi-même de cette façon une centaine de fois. C'est un rire caractéristique, un rire qu'on ne peut manquer de reconnaître, un rire qu'on ne peut dissimuler, c'est le rire acquisiteur. C'est le rire d'un homme qui vient d'obtenir ce qu'il voulait intensément aux dépens de quelqu'un d'autre. » S'il est un homme dans le monde qui connaisse ce rire et qui puisse le reconnaître, même derrière une porte fermée, cet homme, c'est moi. Je ne peux m'y tromper. Jackson m'a pris quelque chose et il en était fier. Sur ce point, il était impossible de discuter avec lui. Il bavait pratiquement de rage à l'idée qu'il avait été dupé et, assurément, je dus le croire. Je dus supposer que, malgré son honnêteté pathologique, Jackson avait finalement été entraîné à voler, sa patience l'ayant exceptionnellement abandonné. Il devait savoir qu'Anderson tenait ardemment à ce qu'il possédait et comprendre que le coup porté serait ressenti avec une intensité dépassant la valeur de l'objet volé, quelle qu'elle soit. « C'était peut-être la mallette qu'il avait volée, » dit Robin. « Non, 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 elle appartenait bien à Jackson, il l'avait depuis des années. Maintenant, vous voyez le problème. Anderson voulait que je trouve ce qui avait été pris car, avant d'avoir pu identifier l'objet volé et montrer que cet objet était ou avait été en la possession de Jackson, il ne pouvait pas le poursuivre. » Et il tenait à le poursuivre. Ma tâche était donc de chercher dans sa maison et de lui dire ce qui manquait. « Comment cela aurait-il pu être possible si lui-même ne pouvait pas le dire ?» grogna Trumbull.
« Je le lui fis remarquer, » dit Bartram, « mais il était furieux et aveugle. Il m'offrit beaucoup d'argent, que je réussisse ou que j'échoue. Une très belle somme, assurément, et il m'en donna une bonne partie comme avance. » Il était clair que, par-dessus tout, il détestait toute insulte délibérée à son acquisitivité. La pensée qu'un amateur non-acquisiteur comme Jackson ait osé le défier sur ce qui était sa passion la plus sacrée l'avait précisément rendu fou et il était prêt à dépenser sans compter pour empêcher que l'autre ne remportât la victoire finale.
Moi aussi, je suis humain. C'est pourquoi j'acceptais l'avance et les honoraires. Après tout, je me disais que j'avais mes méthodes.
Je m'occupais d'abord des listes d'assurance. Elles étaient périmées, mais elles servirent à éliminer les meubles et tous les gros objets que Jackson aurait pu voler, car tout ce qui était sur les listes se trouvait encore dans la maison.
De toute façon, ils étaient éliminés puisqu'il fallait que l'objet volé tienne dans la mallette, dit Avalon.
En supposant que ce soit la mallette qui était utilisée pour transporter l'objet hors de la maison, fit patiemment remarquer Bartram. La mallette aurait très bien pu être un piège. Avant le retour d'Anderson, Jackson aurait pu faire venir jusqu'à la porte un camion qui aurait servi à transporter le grand piano si tel avait été l'objet qu'il avait choisi. Puis, il aurait fermé sa mallette devant Anderson pour l'induire en erreur. Mais oublions cela. J'admets que c'était peu probable. Je lui fais faire le tour de la maison pièce par pièce, suivant un plan systématique qui consistait à considérer le sol, les murs, le plafond, à examiner toutes les étagères, à ouvrir toutes les portes de chaque meuble, à regarder dans chaque placard. Je ne négligeais ni le grenier, ni le sous-sol. Jamais auparavant, Anderson n'avait été obligé de se pencher sur chaque objet de sa collection, qui était énorme et désordonné, pour que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, un objet fasse surgir dans sa mémoire le souvenir d'un compagnon qui n'était pas là. C'était une maison énorme, hétérogène, une maison sans fin. Ça nous prit des jours entiers, et chaque jour, la confusion d'Anderson grandissait. J'étudiais ensuite le problème dans l'autre sens. Il était évident que Jackson avait délibérément choisi un objet qui passerait inaperçu, probablement petit, certainement un objet qui avait peu de chances de manquer Anderson, et donc auquel Anderson n'était pas très attaché. D'autre part, il semblait logique de supposer que c'était quelque chose que Jackson tenait absolument à emporter, et qui avait pour lui de la valeur. Bien sûr, son acte lui apporterait la plus grande satisfaction si Anderson y attachait lui aussi de la valeur, après avoir découvert sa disparition. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien être ?
Une petite toile, dit Gonzalo avec ardeur, que Jackson savait être un authentique Cézanne, mais qu'Anderson prenait pour une œuvre sans valeur.
Un timbre de la collection d'Anderson, dit Robin, qui, Jackson l'avait remarqué, portait une erreur de gravure.
Il avait une fois écrit une histoire qui portait autour de ce point précis.
Un livre, dit Trumbull, qui contenait quelques secrets de famille cachés et avec lequel, le moment venu, Jackson pourrait faire chanter Anderson.
Une photographie, dit Avalon d'une voix dramatique, représentant le portrait d'une ancienne bien-aimée et qu'Anderson devrait racheter pour une très forte somme.
Je ne sais pas devant quelle sorte d'affaire nous nous trouvons, dit Drake d'un air pensif, mais peut-être est-ce une de celles où une pacotille prend pour un concurrent une valeur telle qu'Anderson se voit acculé à la faillite. Je me souviens d'un cas où la formule d'un hydrazo intermédiaire...
Chose curieuse, interrompit Bartram avec fermeté, j'ai envisagé chacune de ces possibilités et je les ai toutes passées en revue avec Anderson. Il était évident qu'il n'avait pas de goût artistique et que ce qu'il possédait était réellement de la camelote. Aucune erreur possible. Il ne collectionnait pas les timbres et s'il avait beaucoup de livres et ne pouvait pas affirmer que l'un d'entre eux n'avait pas disparu, il jura qu'il n'avait pas de secret de famille digne de faire battre à coup précipité le cœur d'un maître chanteur. Il n'avait pas non plus de bien-aimé puisque, plus jeune, il s'adressait uniquement à des professionnels et faisait pas cas de leur photographie. Quant aux secrets concernant son affaire, ils étaient davantage susceptibles d'intéresser le gouvernement qu'un concurrent. D'ailleurs, les documents de ce genre étaient gardés loin des yeux honnêtes de Jackson et se trouvaient encore dans le coffre-fort où avaient depuis longtemps été brûlés. J'ai pensé à d'autres possibilités, mais elles furent éliminées une par une. Bien sûr, Jackson pourrait se trahir lui-même. Il pourrait soudain devenir riche et, en dénichant l'origine de cette richesse, nous pourrions apprendre l'identité de l'objet volé. C'est Anderson lui-même qui suggéra cela et paya généreusement pour faire surveiller Jackson pendant 24 heures. Ce fut inutile. L'homme avait toujours une vie monotone et se conduisait exactement comme le ferait quelqu'un privé d'économie. Il vivait parcimonieusement et prenait de temps en temps un emploi de domestique où son honnêteté et son calme étaient des atouts prisés. Finalement, je n'ai eu plus qu'une seule solution.
Attendez, attendez, dit Gonzalo, laissez-moi deviner.
Il avala d'un trait le reste de son brandy, fit signe à Henry de lui en apporter un autre et dit « Vous avez demandé à Jackson ce qu'il avait volé ?»« J'étais fortement tenté de le faire, dit tristement Bartram, mais cela aurait été difficilement possible. Dans ma profession, il est interdit ne serait-ce que de faire allusion à une accusation sans preuve. Les licences sont trop fragiles, et de toute façon, il nierait simplement le vol s'il était acculé et se garderait de toute action pouvant l'incriminer. »
« Eh bien alors, » dit Gonzalo d'un ton déconcerté, et il se tut.
Bartram, qui avait attendu patiemment, dit « Vous ne devinerez pas, messieurs, parce que vous n'êtes pas du métier. Vous ne savez que ce que vous lisez dans les histoires. C'est pourquoi vous pensez que des hommes comme moi ont un nombre illimité d'alternatives et qu'ils trouvent des solutions dans toutes les affaires. Moi, étant du métier, je sais qu'il en est autrement. Messieurs, il ne me restait qu'une solution, confesser mon échec. Anderson m'a payé, cependant.
J'admets cela en sa faveur. Quand je lui dis au revoir, il avait perdu près de 5 kilos. Ses yeux étaient vides d'expression, et tandis qu'il me serrait la main, il faisait et refaisait le tour de la pièce dans laquelle il était, regardant encore, cherchant encore. Il marmonnait « Je vous dis que je ne pouvais me méprendre sur ce rire. Il m'a pris quelque chose. Il m'a pris quelque chose !» Je l'ai revu plus tard, à deux ou trois reprises. Il n'arrêtait jamais de regarder, mais il n'arriva jamais à trouver ce qui manquait. Il déclina. Les faits que j'ai exposés se sont passés il y a presque 5 ans et il mourut le mois dernier. Il y eut un court silence. Avalon dit, sans jamais avoir trouvé l'objet manquant, sans jamais l'avoir trouvé. Trumbull dit avec désapprobation. Est-ce que vous venez nous demander de vous aider à résoudre le problème?
D'une certaine manière, oui. C'est une occasion à ne pas manquer. Anderson est mort et quoi que nous disions ici, rien ne sortira de ces murs. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Aussi, je peux maintenant poser la question qu'avant je devais taire. Henry, puis-je avoir du feu, s'il vous plaît?
Henry, qui avait écouté avec une sorte de déférence lointaine, présenta une boîte d'allumettes et alluma la cigarette de Bartram. « Permettez-moi de vous présenter, Henry, à ceux que vous servez si efficacement. Messieurs, laissez-moi vous présenter Henry Jackson. »
Il y eut un choc très net qui dura un instant. Puis Drake dit
« LE Jackson ?»
Exactement, dit Bartram. Je savais qu'il travaillait ici et lorsque j'ai appris que c'était dans ce club que vous vous réunissiez chaque mois, je dus, plutôt effrontément, solliciter une invitation. Ce n'était qu'ici que je pouvais trouver l'homme au sourire acquisiteur et le faire d'une manière à la fois discrète et simple. Henry sourit et baissa la tête. Bartram dit « Par moments, au cours de l'enquête, je ne pouvais m'empêcher de me demander, Henry, si Anderson ne s'était pas trompé et je me disais que peut-être il n'y avait pas eu vol du tout. » Toujours cependant, je revenais au sourire acquisiteur et je faisais confiance au jugement d'Anderson.
« Vous aviez raison de le faire, » dit doucement Henry, « parce que j'ai effectivement volé quelque chose à mon ancien associé, l'homme que vous appelez Anderson. Et depuis, pas un instant, je n'ai regretté cette action. C'était un objet de valeur, je présume. Il était de la plus grande valeur, et pas un seul jour ne s'est achevé sans que je pense au vol et sans que je me réjouisse du fait que cet homme pervers n'avait plus ce que je lui avais pris. » Et vous avez éveillé ses soupçons volontairement pour éprouver une joie plus grande. Oui, c'est exact. Et vous n'avez pas eu peur d'être arrêté. Pas un seul instant.
Mon Dieu ! Hurla Avalon.
Je le répète, prenez garde à la colère d'un homme patient. Je suis un homme patient, mais je suis las de ces discussions sans fin. Prenez garde à ma colère, Henry !
Qu'avez-vous emporté dans votre mallette ?
Mais rien, dit Henry. La mallette était vide.
Au nom du ciel, où avez-vous mis ce que vous lui aviez pris ?
Je n'avais pas besoin de le mettre quelque part.
Bien. Alors, qu'avez-vous pris ?
Seulement sa tranquillité d'esprit, dit doucement Henry.
C'était Le Sourire Acquisiteur, première nouvelle du cycle des Veufs Noirs d'Isaac Asimov.